son hiver. Ainsi vont les si et les mais, pourtant ainsi va la vie comme un invité mystère.
Bonjour à tous, vous êtes sur Esprit Occitanie, c'est Tyrène pour l'émission Ainsi va la vie, accompagnée de Tiffen Lemaine à la technique. Aujourd'hui, je reçois Gordon Seward. Bonjour.
Bonjour Irène.
Gordon, vous êtes né le 29 août 1969, vous avez donc 52 ans. Vous avez grandi en Angleterre, dans une station balnéaire en face de Cherbourg. Alors, comment s'appelle cette station ?
C'est une station balnéaire qui a été créée au 19e siècle quand la reine Victoria voulait prendre un bain. Et ça s'appelle Bournemouth. Donc ça veut dire la bouche de la rivière Bourne.
Vous avez effectué votre scolarité en Angleterre, scolarité orientée dans l'art. Vous indiquez avoir été dessinateur sur trottoir en Angleterre, cocktail barman au Club Med et prof d'anglais à Toulouse. Mais c'est Gordon le peintre que je reçois aujourd'hui, et comme le veut le concept de l'émission, commençons tout de suite avec cette première question, Gordon. Avant d'en arriver à la peinture, quel petit garçon avez-vous été ?
Avant d'arriver à la peinture, il y avait peu de temps dans ma vie, en fait. Hein, parce que quand j'étais tout petit, la peinture n'était pas dans la famille vraiment. Et j'habitais au bord de la mer, et j'aimais déjà dessiner. J'ai mis quelque chose qui poussait dans ma peau et je ne savais pas qu'est-ce que c'était, qui me rendait très malheureux, très mélancolique comme petit. Et petit à petit, je prenais qu'est-ce que c'était, sauf mon entourage ne comprenait pas la peinture. Ils n'étaient pas contre, mais c'était quelque chose que j'avais besoin, comme s'il fallait parler l'Occitanie et on n'avait pas jamais appris un mot. Donc...
Alors, pour comprendre un petit peu le contexte, comment était votre famille ? Je veux dire par là, vous étiez fils unique, vous étiez entouré de frères et sœurs ?
J'ai une sœur aînée qui a 5 ans de plus et mon frère qui a 2 ans et demi. Mon frère, quand il était jeune, était très malade.
Plus 2 ans et demi de plus que vous ?
2 ans et demi de plus que moi.
Oui.
Tous les deux sont passionnés des choses, mais pas du tout de l'art. Et les souvenirs que j'ai, c'est de la mélancolie face à la mer, en sentant que je voulais tout ce que la vie me présentait pas au niveau de ce que je voyais faire les autres. Donc l'idée de la vie, quand je regarde les autres personnes autour de moi, même que j'étais dans une famille très aimante, et je suis dans une famille très aimante, mais il y avait quelque chose toujours qui manquait. Et c'est une chance. Avec le temps, j'ai appris que c'est une chance d'avoir une vocation. Mais ma vocation a commencé très tôt et ça m'a rendu assez malheureux.
Donc elle a commencé par le dessin. Vous aviez en fait besoin d'exprimer des sentiments,
Oui, mais je ne savais pas à cet âge-là. Tout ce que c'était suite aux rencontres. J'ai rencontré une dame même à l'âge de 8 ans. Qui tout de suite se sentait comme quelqu'un que je connaissais déjà parce qu'elle était passionnée de la peinture.
Et vous êtes retrouvée à travers elle.
Oui, voilà. Et mes parents, ils ont vu ça. Et petit à petit, j'orientais assez vite, en fait, ma vie vers ce soleil qui me rendait chaud, qui est le monde de l'art, de la peinture et du dessin.
Alors justement, vous parlez du monde de l'art. Avant cette rencontre avec cette dame, quand vous avez 8 ans, qui vous montre et qui montre également à vos parents que c'est vers ça qu'il faut vous orienter, est-ce que vous aviez eu déjà un premier contact ? Est-ce que vos parents vous amenaient au musée ?
Non, jamais. Mais par contre... Moi, je n'ai pas connu mes grands-parents, parce que mes deux parents sont plus ou moins orphelins. Mais j'ai un grand-père que je n'ai jamais entendu parler son nom, jusqu'il est à 3 ans et j'ai 52 ans. Mais par contre, sur le mur, il y a deux tableaux à la maison, une bouquet de fleurs et une petite fille fait fusain, très délicatement, avec le mot « l'amour » en anglais, « love », écrit en bas. Et ça, c'est un contact peut-être subconscient sur les murs de cette grand-parent qui est mort à cause de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et comme une histoire si douloureuse que mon père n'a jamais parlé de ça jusqu'à son mort. Hein. Et donc, mais par contre, ces deux tableaux sont sur le mur. Et peut-être tout ce que je sais de mes racines, de cette côté de ma famille, c'est deux tableaux. que j'avais
mais
face
donc
à moi.
Ce que vous dites n'est absolument pas anodin pour la suite de votre vie.
Non, pas du tout. Et ce n'est toujours pas. Parce que si on imagine quelqu'un qui, pour le reste des gens dans la famille, c'est quelqu'un qui a vécu l'enfer dans la guerre. Et en plus, il a perdu un fils, il a perdu une fille, etc. Bon, c'était l'époque où ce n'était pas facile. Mais par contre, tout ce qui reste, tout ce qui reste nous, tout ce qui reste lui aujourd'hui, c'est deux tableaux très, très, très beaux, très délicats. Un où il écrit l'amour. Et d'autres, un bouquet de fleurs.
Vous les avez alors, chez vous, ces tableaux?
Oui. Non, c'est chez ma mère, mais j'étais là il y a quelques jours, après 2 ans et demi de
Et oui, bien sûr,
de Covid.
De Covid.
Mais pour moi, c'est anecdotique quelque part, mais en même temps...
Pas tant que ça.
Non, mais c'est ça de l'art. Et il y a peu de choses qui restent réellement. Et j'imagine comment les gens, par exemple, à la guerre, de quoi ils rêvaient de monde. Alors, si mon grand-père rêvait que quelqu'un dans la famille allait simplement prendre quelque chose de lui et c'est un tableau, je crois qu'il aurait été content.
Bien sûr.
Oui, c'est ce genre de choses pour moi. C'est ma vision de la vie, en fait. Les choses de l'art, il est très, très important. Très, très important pour ça.
Est-ce que le petit garçon mélancolique que vous avez été a été sportif?
J'étais très joyeux en même temps, mais ma joie a été un peu minée par cette mélancolie de vocation. Mais est-ce que j'étais sportif? Très sportif.
Oui.
Parce que le sport a sauvé mon père d'une enfance très douloureuse. Donc lui, il voulait absolument que nous, on fasse du sport pour sortir de la maison. Et donc, j'étais mis en pensionnat très tôt parce qu'en Angleterre, on joue...
Quel âge très tôt?
8 ans.
Ou c'est tout petit pour être séparé de sa maman, ça?
Oui, c'est tout petit, mais en Angleterre, c'était comme ça. Et en Sparte, en Grèce, l'époque classique aussi. Mais oui, c'est petit, mais en même temps, ils n'étaient pas trop loin à cet âge-là. Mais pour moi, c'était une bonne chose. C'était une bonne chose parce que mes parents m'aimaient. Et honnêtement, moi, j'ai le point de vue de la vie, si les parents aiment les enfants...
Tout se passe bien.
Tout se passe bien. Quand il n'y a pas l'amour,
bien sûr.
C'est voilà, on est piégé d'avance.
Bien sûr.
Mais moi, c'est pas le cas. Donc, mais par contre, il y avait d'autres collègues qui étaient mis en pension parce que ils n'étaient pas aimés. Alors ça, on apprend très vite aussi.
La musique, vous avez eu une éducation musicale? Vous avez fait un instrument?
Alors oui. Grâce aux personnes qu'on va écouter le premier morceau de musique dans 5 minutes, parce que pareil, mes parents ne sont pas trop musicales. Mais par contre, la musique, elle est très, très similaire à la peinture. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qui vibre dans notre corps comme quelque chose prénatal presque, adienne. Et donc, moi, j'ai joué les guitares, l'harmonica, j'ai chanté, j'ai toujours chanté, j'ai écrit des chansons, j'ai même engagé des chanteurs et des chanteuses pour chanter mes chansons ici à Toulouse. Et ça continue, sauf à un moment donné, je me suis dit non, je vais donner toute mon énergie vers la peinture parce que la musique, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais c'est très similaire, c'est frère et sœur comme la poésie.
C'est très drôle ce que vous venez de dire à l'instant. La musique, on ne la comprend pas. Alors, je ne sais plus qui a dit ça. J'ai aimé 3 choses dans ma vie. Les 3 seules choses que j'ai aimées, ce sont les 3 seules choses que je n'ai jamais comprises. La peinture, la musique et les femmes. Et c'est très drôle d'entendre un peintre me dire « La musique, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. » Et ça correspond effectivement à ce qu'avait dit ce monsieur. Il faudrait que je recherche qui a dit ça.
Ah ben c'est des muses, hein. Tous les 3 c'est
voilà,
des muses.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
Les Grecs, en tout cas, ils avaient déjà mis ça sur papier, hein. C'est pas de nouvelles. Mais oui, et la douceur. La douceur, pour moi, c'est très important. Mais ça, c'est chacun la chose. Mais c'est vrai que la douceur féminine dans la peinture et ce que je ressens dans la musique, pareil, ces premiers morceaux.
Quel instrument vous avez appris?
Ben, les guitares, non, oui, les guitares, mais j'avais un prof à l'école qui dormait pendant que je jouais, donc c'était pas... Donc
c'est pas très encourageant, effectivement.
Non, il était bourré et tout ça, bon, c'est un cliché, mais peut-être quand même c'est assez bohème, donc pourquoi pas. Mais oui, je joue toujours les guitares.
Vous avez reçu une éducation religieuse?
Oui, l'anglicanisme, je crois, donc la reine prend la place du pape. Et on apprend beaucoup de bonnes choses dans la religion. J'avais des gens vraiment qui insistaient sur l'amour quand ils parlaient de religion. Donc, je n'ai pas un problème avec ça. Je prends la religion comme presque un guide social, apprendre à laisser. Mais je trouve que si on compare tous les guides sociaux, la religion, ça fournit un guide pas trop mal, parce que l'amour, normalement, c'est en première ligne. Et après, la fraternité, les choses comme ça. Donc, voilà, je le prends comme ça. Et voilà, mais il n'y a pas assez de peinture dans les églises aujourd'hui. Et le jour où l'église a séparé de l'art, était une journée très triste. Et l'église devrait apprendre à reprendre les arts très sérieusement.
J'aimerais, Gordon, que vous me fassiez part de votre scolarité. Donc, à 8 ans. Mm-hmm. Vous êtes mis en internat. Scolarité dite classique ?
Oui, très classique. Oui, très classique.
Vous êtes bon élève ?
Non, pas particulièrement. J'ai une concentration moyenne et j'ai une mémoire quasi inexistante.
Vous lisez beaucoup à cette époque-là ?
Est-ce que je lisais ? Oui, de la poésie déjà, en fait. Hein. Même jeune, j'aimais la poésie, mais... C'est vrai que la poésie existe plus en Angleterre qu'en France. Donc, quand on est jeune, quasiment tout le monde écrivait des poèmes. Pas forcément aux filles. Hein. C'était une façon de s'exprimer parce que la poésie existe. Ce n'était pas quelque chose intellectuel. C'est quelque chose de beaucoup plus sensuel et beaucoup plus lié. Un peu comme aujourd'hui avec le rap ou les chansons françaises, les jeunes écrivent. Voilà. Mais en Angleterre, c'était simplement des poèmes. Plutôt que des chansons.
Alors comment ça se passe ? Vous allez jusqu'au bac, c'est la même scolarité, le même cursus qu'en France ?
Plus ou moins. Et à l'âge de 13 ans, j'ai choisi mon prochain école d'après un conférencier qui était professeur dans une grande école en Angleterre. Donc j'ai dit à mes parents, je veux aller là, parce que c'était un monsieur qui était amoureux absolument à la vie, à la mort, au Dieu et au Cézanne. Alors, au Dieu, il ne parlait jamais et ça ne me convenait pas. Voilà, c'était pas les dimensions qui m'intéressaient plus que ça. Mais sa passion pour Cézanne, c'était au-delà presque de Dieu, malgré lui. Et comme un petit garçon, je me vois toujours en écoutant ses conférences, quand il parlait des proportions, comme cette branche de peintre sur le Mont Saint-Victoire qui parallèle, verticale, horizontale, et les couleurs, et cette divine Cézanne. Et déjà, à 13 ans, tout était tracé pour moi, dans le sens il parlait ma langue, il nous parlait comme des adultes, hein, parce que pour lui, c'était quelque chose de très, très important. Comme un beau livre qu'on met sur le dernier étage pour un enfant. On dit, cet livre, c'est important, et un jour, vous aurez le droit de le toucher.
Donc, ça correspondait, en fait, à, comme chez nous, à une entrée au lycée, en fait.
Oui, je crois, oui.
Avec une section art.
Oui, je suis allé pour peindre. Et donc, j'aurais pu quitter l'école à 16 ans, je savais exactement. Mais lui, il était...
Tout de suite, vous saviez ce que vous vouliez faire de votre vie.
Oui, je savais, mais j'ai pas un caractère assez forgé de dire non, j'arrête tout, je peins. Non, j'étais plutôt influencé socialement, etc.
Alors justement, qu'en pensaient vos parents de ça ?
Mes parents, j'ai dit, ils étaient orphelins, donc tout ce qui n'était pas important pour eux, que j'étais heureux. Et après, ils ne me poussaient pas. Ils n'ont pas dit, oh, Gordon, il peint bien, donc génial, on veut montrer à tout le monde. Non, pas du tout. C'était simplement que je sois heureux. Et la peinture correspondait, ils voyaient à ça. Donc, ils ont essayé d'apprendre, autant comme aujourd'hui, et ma mère, j'ai perdu mon père, mais elle essaie de comprendre. Elle essaie de comprendre, mais elle voit que je suis heureux. Elle est fière, mais elle ne comprend pas. Elle n'a pas reçu une éducation en peinture. Et voilà, mais par contre, j'aime ça parce que...
Quand elle dit qu'elle ne comprend pas, pour vous, c'est un manque de sensibilité par rapport à la peinture ?
Non, c'est un manque d'éducation. C'est quelqu'un comme elle, elle vit les mêmes sensations en regardant la mer que moi, j'ai en regardant un bon manet ou quelque chose comme ça. C'est les mêmes, je crois, dans le sens où on voit tout ce qui est dans la vie... comme une grande main qui nous offre les réponses à la vie. Soit pas la mer, soit pas un paysage. Moi, c'est pas ces monsieur et des dames du passé ou du présent qui ont intégré ça entre des couleurs et des lignes.
Vous rentrez donc à 13 ans, 13-14 ans dans cette école où vous pouvez exprimer à travers la peinture, à travers le dessin, tout ce que vous avez en vous. Et puis alors c'est très bien puisque ça correspond en plus à la période adolescente, là où on a vraiment beaucoup de choses à exprimer justement. Là, vous y restez jusqu'à 18 ans.
Oui, c'est ça, ouais. 18 ans, donc j'ai fait le bac, je crois, à 18 ans. Et par exemple, le matin que j'ai fait le bac de Beaux-Arts, cet professeur, il est entré dans la pièce avec ses élèves et nous a dit, alors, aujourd'hui, vous allez dessiner comme des cons. Oubliez tout ce que je vous ai appris parce qu'il ne veut pas ça. Ce qu'il veut, c'est ce que vous imaginez, comment il dessine les cons. Et donc, faites ça. Surtout, ne pas faire ce que moi, je vous ai enseigné, parce que ça, c'est pour après.
Donc, il ne voulait pas que vous soyez académique, en gros.
C'est pas académique, c'est simplement dessiner pour les gens qui veulent voir un bouteille, qu'on dessine un bouteille, et c'est tout photographiquement presque.
Je comprends.
Il n'y a aucune profondeur. Donc donnez aux ânes ce qu'ils attendent. Ça, c'est très courageux. Et ça c'était. Voilà, et ça a marché, j'ai eu une mention très bien, voilà, etc. Mais tout de suite, il y a une rigueur là. On vous parle comme un adulte, c'est sérieux ce sujet. De temps en temps, il faut jouer les jeux, mais c'est sérieux. Et pour lui, c'était sérieux. Et ça, c'est vraiment l'éducation, c'est un respect. Et j'imagine dans la musique, c'est pareil pour des vrais musiciens, pour les compétitions et tout. Donnez-les ce qu'ils attendent. Voilà.
Et derrière cette école, derrière ce lycée, après le bac, vous faites une université.
J'ai fait
ce qui correspond aux Beaux-Arts.
J'ai fait un an de préparation pour les Beaux-Arts, où on apprend les graphismes, les choses comme ça. Mais bon, moi, j'ai peint. Et on apprend à rencontrer d'autres personnes aussi. Donc, ça, c'est chouette. Et après, je suis parti à l'université de Newcastle, qui est aussi loin de chez moi que possible en Angleterre, parce que j'étais assez dessus avec la société du Sud, là où j'étais. C'est une station balnéaire. Voilà. Donc, c'était un désert culturel. En tout cas, à mes yeux, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Mais... Donc, je suis allé à Newcastle et j'ai eu la chance, là, la première année, je suis resté, c'était l'enfer. J'essaie de peigner avec mon propre sang, presque, tellement j'étais mal dans moi, dans mon pot.
Et pourquoi ça, vous l'expliquez, pourquoi
ça, oui, l'adolescence. Je ne sais pas, l'adolescence qui est un peu plus tardive chez les garçons, je crois, tout le monde le sait.
Oui, elle est tardive, mais enfin, elle dure encore plus longtemps, c'est ça le problème.
Hein. Oui, c'est ça, oui, ça c'est un autre sujet. Mais oui, et en plus, la première année, il nous a dit, il ne faut pas peindre, il ne faut pas dessiner, il faut faire de l'art contemporain. Donc surtout, grattez votre tête et donnez-nous quelque chose d'hyper hyper profond, comme si vous avez compris la vie, et quelque chose qui déchire, qui est vulgaire, etc. Bon, moi je voulais peindre. C'était un gros problème. Et donc, j'ai peint dans mon coin. Et à la fin de l'année, j'ai gagné le prix. Mais je savais que je peignais avec mon propre sang. C'était très, très désagréable. Donc, je suis parti. Je suis parti un an en France où j'ai travaillé chez Club Med pendant un moment dans les Alpes.
Vous connaissiez la France ?
Je connaissais en fantasme par la peinture.
D'accord.
Oui. Et finalement, je l'ai pas mal connu, compris en fait. Hein. Les tableaux, ils nous parlent beaucoup. Et cette contact avec la nature qui est chez Monet, chez les impressionnistes, depuis Delacroix, hein, de tout ça, cette sensation, il y a quelque chose, oui, j'ai capté. Hein. Je suis allé et j'étais très excité de ressentir ça et très excité aussi de marcher dans le pas, hein. Mais aussi j'avais imaginé que la France était plus grande que cette grande champ de bataille qu'on nous a dit que c'était. Parce que les cours d'histoire, la France, ce n'est que ça. Ce n'est d'autres choses, mais je veux dire, l'histoire est plutôt concerné par les dates de bataille entre les Anglais, les Français et les autres, les catholiques. Bon, mais la peinture est plus grande que ça. Il est plus grand que ça. Et aujourd'hui, voilà, la plupart des gens vivent en France pour l'art et pas à cause de Napoléon. Et ça, c'est merveilleux.
Gordon, je vous propose une première pause musicale. Vous avez choisi de nous faire écouter un morceau de Bob Dylan. D'ailleurs, je vous laisse nous annoncer son titre et nous dire aussi pourquoi ce choix.
Spanish Boots of Spanish Leather. Ça veut dire des bottes de cuir espagnol. Le titre n'est pas trop important, mais Bob Dylan, c'est le poète qui rend le complexe très simple et très, très belle. Et il nous donne toute la vie dans ses chansons avec une aisance qui est l'équivalent d'un tableau réussi. Hein. C'est l'aisance, mais derrière, c'est un travail. Mais la beauté. Bon.
On écoute.
Oh, I'm sailing away, my own true love. I'm sailing away in the morning. Here's something I can send you from across the sea. From the place that I'll be landing. No, there's nothing you can send me, my own true love. There's nothing I'm wishing to be owning. Just to carry yourself back to me unspoiled. From across that lonesome ocean. Ah, but I just thought you might want something fine. Made of silver or of golden. Either from the mountains of Madrid or from the coast of Barcelona. But if I had the stars of the darkest night and the diamonds from the deepest ocean, I'd forsake them all for your sweet kiss. For that's all I'm wishing to be owning. But I might be gone a long old time, and it's only that I'm asking. Here's something I can send you to remember me by, to make your time more easy passing. Oh, how can you ask me again? It only brings me sorrow. This same thing I would want today, I would want again tomorrow. Oh, I got a letter on a lonesome day. It was from her ship, it's sailing, saying I don't know when I'll be coming back again. It depends on how I'm feeling. If you, my love, must think that away, I'm sure your mind is a roaming. I'm sure your thoughts are not with me, but with the country to where you're going. So take heed of the western winds. Take heed of the stormy weather. And yes, there's something you can send back to me. Spanish boots are Spanish leather.
Merci Gordon pour ce choix.
Merci
parce
Bob
que
Dylan.
Ça fait vraiment toujours du bien d'entendre Bob Marley. Bob Dylan.
Bob Marley aussi.
Bob Marley aussi, mais là en l'occurrence on était sur Bob Dylan.
Ça m'a fait plaisir.
Vous êtes donc venu en France une année, vous avez à peu près 20 ans à ce moment-là.
La première fois, oui, ça... Oui.
Mais alors pourquoi la première fois, pourquoi vous restez un an et pourquoi vous rentrez alors que, comme vous venez de nous l'expliquer juste avant cette magnifique chanson, vous êtes, je ne vais pas dire impressionné, mais presque ébloui par la France.
J'étais à Orléans et j'ai adoré marcher sur la Loire. C'est une rivière pleine de lumière, des oiseaux. Et j'avais trouvé un petit boulot d'enseigner d'anglais aux professionnels qui ne voulaient pas apprendre, mais il fallait apprendre l'anglais, sinon ils perdent leur boulot. Bon, ça c'est affreux. Mais j'ai beaucoup aimé ce passage, mais petit à petit, j'ai réalisé en fait, à l'université, je pouvais apprendre... Faire de la lithographie, de la gravure, de la sculpture, et apprendre tout ce que je peux faire, qu'on peut faire pour s'exprimer. Et donc, en fait, je me suis dit, non, je vais retourner pour apprendre les choses techniques et aussi quitter Newcastle et les étudiants, parce que les étudiants, je ne pouvais plus. Je ne comprends pas. La vie étudiante, ça m'ennuyait à un point. Parce que c'était si superficiel de ce que j'ai rencontré moi, et j'avais tout sauf envie de ça.
Vous pensez que c'est un problème de maturité à ce moment-là ?
Non, c'était moi. C'est un peu complexe, comme tout le monde. Et donc, j'ai trouvé une chambre sur une ferme, juste en dessous de la frontière avec l'Écosse, dans une famille, avec deux garçons de mon âge. Et enfin, j'ai rencontré des gens vrais. De ma famille. Mais c'était des gens simples, vrais, avec une vraie sagesse incroyable de la campagne. Ça existe. C'est l'équivalent d'un paysan.
Oui, donc c'est la superficialité que vous n'aimiez pas.
Oui, peut-être c'est le côté paysan, parce que c'est vrai qu'en Angleterre, il n'y a quasiment plus de paysans. En France, il y a toujours, là où j'habite, il y a des paysans dans le sens noble. En Angleterre, j'avais jamais rencontré, donc tout était prévisible presque. On croit qu'on comprend tout quand on est jeune. Et là, on rencontre les gens qui vivent par les saisons, qui aiment les oiseaux, qui ont une vision de la vie beaucoup plus simple, beaucoup plus.
Et puis qui ont une vision de la nature comme vous l'aviez vous à travers votre peinture, peut-être.
Non, la peinture n'existait pas vraiment, sauf que. Ils aimaient l'art. Et par exemple, la mère, souvent, elle allait aux enchères pour acheter des tableaux, des meubles. Et elle avait acheté des choses incroyables, mais des tableaux incroyables. Mais elle ne savait rien, mais elle avait le goût. Elle avait un goût féminin. Je ne veux pas dire que tous les paysans sont doux et gentils. Hein, ce n'est pas ça du tout. Cette famille était. J'ai vraiment eu la chance. Et donc, je pouvais m'éloigner de ce monde universitaire qui ne m'allait pas. Mais par contre, trouver pas une nouvelle famille, parce que ma famille sont super. C'est simplement retomber amoureux de l'Angleterre, hein, tout simplement. Et là, j'ai rencontré une dimension de l'Angleterre qui m'est très chère toujours. Ça veut dire des traditions, des racines, des choses beaucoup plus simples, beaucoup moins peut-être les choses qui avaient des racines avant la révolution industrielle qui a si traumatisé le pays, hein, et toujours aujourd'hui.
Et combien de temps vous restez chez ces gens ?
Pendant 3 ans.
Oui.
Et 3 ans, donc on était très proches à la fin.
Ben, je m'en doute, oui.
Et ils sont venus même à l'expo à la fin de mes études. Donc cet agriculteur, le père, qui n'a jamais quitté la ferme, jamais quitté sa village, jamais de sa vie, de le voir devant tous les tableaux avec ses grandes mains comme des raquettes de tennis, sans ses dents, parce que voilà, ça faisait longtemps, il avait 55 ans, mais avec des grandes mâchoires, et sa femme qui était toute petite comme un oiseau, mais forte comme un aigle, et avec les deux garçons, ils regardaient tout. Et l'anecdote, c'est que la maman a acheté un tableau d'un ami ce jour-là, et que personne n'a acheté. Aujourd'hui, cet ami, il expose à Londres, et chaque tableau, ça vaut 50 000 livres.
Elle a eu raison.
Et elle a acheté un grand. Et personne d'autre avait acheté. Donc voilà l'anecdote. C'était des gens capables de voir. Et juste voir, dans le sens très, le plus ouvert, mais le plus merveilleux. Voilà.
À quel moment vous décidez de vivre en France ?
Tout de suite après l'université. Après l'université, je suis parti.
C'était une évidence pour vous ?
Oui, c'était une évidence de venir vivre... En France, parmi les peintres, parmi les gens que je me suis senti si proche, hein, mais pas, c'était pas si naïf que ça, en fait, parce que vraiment la peinture, c'est pas une chose vraiment simplement joyeuse et belle et etc. C'est simplement un chemin de ressentir les largeurs et les profondeurs de la vie. Et pour moi, c'était une telle évidence. Et ces gens-là, ils ont gagné ça en France. Ce n'était pas que des Français non plus. Hein, les grands peintres en France, c'était plutôt de toute nationalité. Hein,
j'allais vous poser la question. Quel peintre avez-vous eu pour exemple ?
Le premier, pour
inspiration.
Oui, le premier peut-être c'était Cézanne, grâce à ses professeurs qui étaient si passionnés. Oui. Mais Cézanne, c'est pas vraiment un homme. C'est terrible parce que c'est un homme tellement pitoyable, à une dimension, qu'il est né riche, voilà, c'est le fils de maman, il est détesté d'être touché, c'est... Avec les femmes, il est insupportable, c'est un homme de son époque, totalement, et en plus, voilà, bon... Mais, par contre, il a touché quelque chose qui, aujourd'hui, il est toujours peut-être l'artiste le plus contemporain, même aujourd'hui. C'est Picasso qui a défini qui était Cézanne quand il s'est enterré au pied de Mont-Saint-Victoire, à cause de Cézanne. C'est unique, mais les Japonais aujourd'hui, c'est un dieu. Mais c'est pas l'homme qui est un dieu. Il a touché une façon de la création divine. Il a compris quelque chose très maladroitement au début, parce que c'était un peintre de dimanche qui dessinait mal au début. Mais il petit à petit, par travail devant la nature, avec devant ce paysage de la Provence et les gens de la Provence, qui sont très durs, très très durs, les deux, il a eu accès, il a ouvert une porte, et dès qu'il a franchi cette porte, personne n'a pu fermer cette porte. Et c'est ça qui est merveilleux avec Cézanne, pourquoi on le met à part? Parce que la plupart des peintres créent des petites révolutions et tout ça, mais Cézanne, il a ouvert une porte qui personne n'avait jamais imaginé exister. C'est comme une porte secrète, et derrière cette porte secrète, on y est tous aujourd'hui. Et donc, voilà, au-dessus de cette porte secrète, il y a une grosse plaque. Cézanne est le premier homme à passer par là. C'est comme Neil Armstrong ou quelque chose. Je ne vais pas faire un cours de beaux-arts, mais moi, je le ressens comme ça. Et j'avais déjà ressenti ça, et que la France était importante à ce niveau. Et petit à petit aussi, la littérature, j'aimais bien, mais la littérature en Angleterre était largement adéquate, largement suffit. Mais par la peinture, il y a 100 ans, quand j'étais jeune, 150 ans, voilà, il avait des choses comme ça. Et après, d'autres peintres, donc je peux citer Manet, par exemple, et après Matisse, très important, ce qu'il a fait pendant la guerre, comment il a vécu en étant un homme. Pour les hommes aujourd'hui, on a peu de modèles. Hein. Sauf les footballeurs, on peut être comme Mbappé, on peut être, je ne sais pas, citer l'abbé Pierre. Mais c'est des choses un peu floues. Hein. Les femmes, pas, je ne sais pas, mais un modèle pour être un gentilhomme aujourd'hui, donnez-moi des modèles, il y a très très peu. Mais pour moi, ces peintres étaient des modèles. Comment être, qu'est-ce qu'on fait avec cette vie, avec cette violence qu'on a en étant homme? Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour ne pas faire du mal? Et moi, je sais par expérience, on peut donner tout devant une toile. On peut vraiment sentir qu'on a bataillé avec les diables et on ne fait pas de mal.
Justement, tout donner sur une toile, on en parlera tout, très vite, là, tout de suite, par rapport à ce que vous donnez sur vos toiles et sur votre façon de peindre. Et comme je le disais tout à l'heure en aparté, sur les ajouts de matière, c'est pour ça que je voudrais qu'on revienne vite. Vous arrivez en France, vous vous installez tout de suite dans la région d'Occitanie.
Alors, je suis venu avec un autre peintre pour chercher un atelier quelque part en France. On a testé des villes.
Lui, un ami anglais également.
Non, lui, il est né en France, à Toulon. Donc, surtout pas Toulon.
D'accord.
pour ses propres raisons. Mais on a testé des villes du Sud. Parce que quand même, le choc du Sud, c'est la lumière. Et je n'avais jamais vu ça. Jamais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça, c'est bon. Ça, c'est quelque chose...
Oui, c'est optionnel en Angleterre, la lumière.
C'est différent, c'est très fugace. Il a de la lumière en Angleterre, mais c'est fugace. Et j'adorais cette lumière très stable et très forte comme ça. Et les ombres que ça donnait un coup là. Donc, et tous les deux, on a tombé amoureux de Toulouse, finalement. Vraiment tombé amoureux. Et on ne connaissait pas dans la peinture. Toulouse, pour moi, n'existait pas dans la peinture, comme des grandes villes de France. Qu'on pense à Nice, à Matisse, Paris, par tous les peintres. Même Lyon, j'avais vu dans les tableaux. Mais Toulouse, jamais. Pourtant, il y a quelques peintres qui sont passés par là. Mais Collioure, par exemple, oui. Mais Toulouse, non.
Lautrec n'était pas très loin quand même. Enfin,
oui, mais pas à Toulouse.
Mais pas à Toulouse, effectivement.
Non, pas à Toulouse. Et donc, quand j'ai vu Toulouse avec cet autre peintre avec qui j'étais... tous les deux, c'était un coup de foudre dingue. Donc, on a pris un appartement dans la rue Parc-Minière, à côté du pont Saint-Pierre, pour peindre, parce que c'est un endroit
bien
magnifique.
Sûr.
C'était juste avant que le place Saint-Pierre est devenu...
La place des étudiants.
Oui, pour être poli. Moi, j'étais une sorte de toilette publique. Mais bon, c'était... et donc, on peignait quasiment tous les jours sur les bords de la Garonne, et sur les ponts.
Vous peignez... parce que maintenant, c'est vrai que vous peignez beaucoup de visages, de personnes, de corps. Vous peignez que des paysages à ce moment-là, quand vous arrivez à Toulouse?
Oui, parce que cette rencontre avec la lumière... J'aimais beaucoup ça, mais dès que je mettais les pinceaux sur la toile, je revenais dans l'atelier et je m'ennuyais avec ce que j'avais fait. Alors, c'était très, très ennuyant. Et jour après jour après jour, on partait peindre et ramener les toiles. Et comment ne pas s'ennuyer avec ce qu'on a fait devant une lumière si spectaculaire? Comment garder un tout petit peu de ça? Et c'était comme ça que j'ai trouvé les pigments purs. Et à la fin d'un an de travailler, je ramenais des toiles avec quasiment que quatre couleurs, en fait, que des couleurs primaires, plutôt vues au niveau de tonalité. Donc, ça veut dire que le jaune était clair. Dès que je vois quelque chose clair, bam, je mets du jaune. Dès que je mets du sombre, boum, du rouge. Et donc je m'éloignais d'une sorte d'idée photographique de la réalité à quelque chose de beaucoup plus sensuel. Et c'était la seule façon de ramener un petit peu de cette intensité à l'atelier. Parce que sinon, c'était pas possible. Donc, j'ai recommencé à penser la peinture un petit peu. Et par force. Et également, pour gagner du sous, on faisait des choses sur le trottoir à Toulouse. Hein,
C'est-à-dire
des reproductions des tableaux. On était sous les arcades des Capitoles tous les jours avec une grosse roulette, avec une copie d'un Vermeer à 2 mètres par 2 mètres, qu'on travaillait tous les jours. Et comme ça, on faisait des commandes, des petites fresques, des murales.
Ça marchait bien?
Pas à Toulouse, en fait, c'est pas dans les mers, en fait, de ce genre de choses. Donc, non, pas très. J'avais fait ça avec mon ami en Angleterre, on gagnait notre vie presque, hein, en faisant ça. Mais ici à Toulouse, c'est pas trop dans les mœurs. On voit pas trop de choses. C'est pas dans les habitudes ici. Non, donc ça marchait pas très bien. On avait quelques commandes, mais on ramait plus. Donc j'ai pris quelques heures pour faire des cours d'anglais pour gagner de la peinture.
Bien sûr. Je vous propose la deuxième pause musicale.
Ok.
Vous avez choisi de nous faire écouter Puccini et c'est le morceau de la Traviata.
Oui, je crois que c'est le prélude. Pourquoi ? Bon, c'est plutôt anecdotique parce que le prélude Traviata, il y a toute l'opéra dedans, toute la beauté de Puccini, on le ressent. Et pour moi, c'est vraiment quand j'ai terminé une toile, ça ouvre son monde potentiel. Quelqu'un peut... Je ressens une nouvelle toile née, mais je n'ai jamais rencontré, jamais montré encore. Et il a un prélude, ça donne cette sensation où tout est possible et on entend tout, mais tout est à venir.
Ça fait toujours du bien, la musique classique. Elle a une place Puccini. Importante dans votre vie au quotidien?
Oui, je peins souvent avec la musique classique. Hein, c'est une très, très bonne façon d'écouter des opéras et les France Musique, beaucoup.
Oui.
J'écoute. Mais non, j'aime beaucoup. Ça entre pas en troisième oreille quand je peins. C'est rigolo.
Alors, sur cette troisième partie, j'aimerais qu'on parle bien sûr de votre peinture, de votre façon de peindre. J'aimerais qu'on parle de votre épouse qui est entre guillemets dans l'ombre, mais qui, pour vous permettre de peindre complètement, s'occupe de tout à côté. Et j'aimerais que vous l'évoquiez. Et puis, bien sûr, sur cette troisième partie, parler de votre site et de vos rencontres chez vous à l'atelier. Et bien sûr, les deux prix. Mais on peut peut-être commencer juste avant de... Vous venez de recevoir deux prix. Alors, quels sont ces deux prix?
Alors, le premier prix, je suis très fier.
Mais vous avez raison de l'être.
Parce que dans la peinture, quand on ne fait pas de l'art contemporain, il n'y a pas beaucoup de prix, en fait. Et je ne cherche pas les prix. Mais les prix, c'est un sort de pont, pour que les, un sort de reconnaissance, quand même. Alors, je viens de recevoir le prix Sauer Raphaël Sennelier par la Fondation Taylor de Paris. Ça, c'est une grande fondation, mécène, qui, et c'est un prix, donc, Sennelier, c'est le fabricant de la peinture. Hein. Donc, je suis très touché de cette prix que je vais recevoir en janvier, avec une expo que, dans la fondation pendant 3 semaines en janvier, à la Fondation Taylor. Et aussi, encore plus récemment, j'ai reçu le prix René Aspe, ici à Toulouse, de l'Académie de Languedoc. Et ça, ça me touche beaucoup aussi, parce que je mets souvent Toulouse dans mes toiles. Quand j'expose à Paris, on me dit « Ah, c'est les Toulousains !» Bon. Et Toulouse est très important dans ma vie, donc je mets toute ma vie dans mes toiles. Et donc, je suis très, très content que, voilà, de cette reconnaissance de ma région, de cette région, pour ça. Et René Aspe, j'aime beaucoup ses tableaux. C'est un peintre qui est mort dans les années 60, je crois. Mais un post-impressionniste coloriste, une femme qui a su peindre la beauté de Toulouse.
Une question sans doute naïve, est-ce que le fait d'avoir des prix comme vous venez d'en recevoir change la cote d'un peintre?
Alors ça c'est un sujet, la cote, si vous voulez on parle un peu, mais la cote, je sais c'est important, mais le coup de cœur c'est au-delà d'une cote.
Bien sûr.
Et oui j'ai une cote, mais je crois que les meilleurs peintres du passé n'avaient pas une cote. La plupart étaient totalement inexistants. Et donc, oui, c'est un sujet qui est important, mais parlons-en de la magie de la peinture et la cote. Oui, j'ai une cote. Et je vous invite surtout plus de regarder les toiles elles-mêmes et ressentir devant la peinture et n'écouter personne.
Alors, avant de regarder une toile, et bien sûr, on dira à nos auditeurs où se rendre pour regarder les toiles. Avant de les regarder, je voudrais que vous les expliquiez. Je voudrais que vous nous racontiez une de vos toiles du début à la fin, c'est-à-dire l'inspiration, c'est-à-dire la façon et le moment dans la journée où vous peignez. Comment ça se passe? Et le rajout de matière. N'oubliez
je vais
pas
essayer.
De me parler du rajout de matière que j'ai remarqué sur vos peintures.
Oui, qui est venu petit à petit. Une peinture, donc... J'ai mon atelier dans la maison, donc je ne divise pas la peinture par la vie. Je peux faire la vaisselle, monter et faire la peinture. Mon cerveau ne voit pas la différence entre les choses. Donc je ne vais pas aller au bureau, je vais à l'atelier pendant 9h, 5h, non. Et je peins quand j'ai envie.
Et c'est des moments.
C'est des moments et c'est plutôt plus difficile d'arrêter de peindre que de peindre. Quand on a une toile devant nous... C'est toute la lutte, en fait. On a la raison qui, le cerveau, nous guide dans notre quotidien et nous préserve des bobos, des choses. La peinture, ce n'est pas ça. Donc, entrer dans une toile, c'est un douce, un compromis avec le cerveau, de dire, bon, là, vous allez me laisser tranquille et je vais m'exprimer par d'autres méthodes que vous ne comprenez pas. Donc, je regarde des couleurs que j'ai envie d'utiliser, j'ai une inspiration que j'ai envie d'exprimer, et j'y vais. Et ce n'est pas beaucoup plus profond que ça. Je ne gratte pas la tête pour tout comprendre avant que je commence. je crois pas à mon cerveau du tout assez comprendre. C'est pour expliquer la différence entre l'art contemporain et la peinture, la peinture traditionnelle. L'art contemporain, on a une idée, on la fabrique la plupart du temps. D'accord. C'est pas toujours le, mais je généralise et c'est pas négatif du tout. Mais on a une belle idée, on la fabrique. La peinture, on en a aucune idée, on le fait et à la fin l'idée se présente et on ressent l'idée qu'on voulait le faire. Mais si le cerveau dit ah je veux faire ça, on a déjà fait et rien sort parce que voilà, ça ne sort pas la tête. Et donc, en fait, toute la jouissance de la peinture, c'est cette innocence d'expression. C'est d'y aller avec tous nos moyens. On ne sait pas où, on ne sait pas comment. Et si on parle des choses que j'ajoute dans la peinture, ce n'est que ce chemin-là. Donc, par exemple, j'aurais vu quelque chose que je peux mélanger avec la peinture. Et au moment de m'exprimer quelque chose, je vais dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe si je mets ça là ?» Et surtout, avec un sens de ridicule. « Oui, mais je ne peux pas faire ça, ça va être ridicule. » Et je le fais et je me dis « Bon, ouais, ça marche. » Et après, je peux l'enlever si je ne suis pas d'accord avec. Mais il faut toujours avoir cette sensation « Oui, mais je ferai la ridicule. »
Parlez-nous de quelle peinture vous utilisez.
La peinture à huile, de toutes sortes, ce n'est lié parce que c'est le prix que il est, voilà, mais oui, toutes sortes de peintures, mais c'est la peinture à huile, hein, donc ça, c'est ça que j'aime bien.
Et qu'est-ce que c'est les ajouts qu'on peut trouver sur vos peintures? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, si plus jeune vous avez peint, et notamment en arrivant à Toulouse, à côté du quai Saint-Pierre, là-bas, vous avez peint, vous l'avez dit vous-même, beaucoup de paysages. Moi, ce que j'ai vu en regardant votre site, entre autres, c'est surtout beaucoup de corps, beaucoup de visages, beaucoup de personnages. Mmh. Un danseur merveilleux, d'ailleurs, que j'adore, vous avez, c'est un danseur argentin, je crois.
Plutôt l'Espagne du Sud, mais oui.
Oui, il est magique ce tableau. Et justement, quand on s'approche de très très près, on voit qu'il y a des ajouts de matière. Alors qu'est-ce que c'est?
L'origine de ça, en fait, c'est d'acheter des tubes de peinture à côté de petites filles qui achètent les choses pour le scrapbooking et les choses comme ça. Parce que dans les magasins, on regarde les tubes, mais à côté, ils mettent des paillettes, des choses, et on se dit, mais. Ça, c'est intéressant, ça. Parce que moi, je n'ai pas de rapport avec les paillettes, les choses comme ça. Parce que quand j'étais petit, voilà, ce n'était pas mon monde. Donc, je prends tout ce qui est déco en étant artiste-peintre. Et si quelque chose utilise la lumière, c'est une jolie couleur, et en plus, on peut le mettre dans la peinture à huile, parce que l'huile ne supporte pas le papier, par exemple, c'est bon. C'est bon et ça m'intéresse. Ça gagne du temps. Hein. Si on peut mettre un gros morceau de, si, par exemple, j'aime bien le velours autocollant de rouge parce que c'est, on peut plonger dans cette couleur.
Alors vous parlez du rouge, justement, je voudrais en parler. Il faut préciser que vous êtes un peintre qui aime vraiment les couleurs vives.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? On aime les fleurs. C'est une couleur, on me dit que la couleur parfois c'est violent, mais quand on marche dans un champ des fleurs, les fleurs sont d'une couleur très très forte, mais c'est jamais violent ça. Et c'est curieux le rapport avec la couleur qu'ont les gens, mais c'est normal que moi, en termes d'artiste peintre, c'est comme des notes pour les musiciens, les couleurs, hein. C'est très très similaire. J'ai un rapport pas différent, c'est très technique en fait. Il porte si on regarde en noir et blanc, je le regarde presque comme ça parce que je fais confiance aux couleurs qui sont tous belles. Ils sont toutes belles. Il n'y a pas une idée d'une couleur moche.
Vous produisez beaucoup, il vous faut longtemps pour faire un tableau?
Ça peut. Entre 2 jours et 4 semaines, ouais, à peu près.
Alors Gordon, il nous reste que 5 petites minutes, je crois. Je voudrais vraiment que vous me parliez de votre épouse, de son rôle dans votre entreprise. Je le dis entre guillemets parce que c'est vraiment... Vous êtes vous le peintre, mais vous travaillez en duo. Et Elle est dans l'ombre, mais je sais qu'elle fait beaucoup et je voudrais qu'on en parle.
Alors, ma femme a fait l'histoire de l'art. Donc, elle a une vision de l'art très passionnelle, mais aussi appris à l'école de Louvre. Mais je sais qu'elle était déçue qu'on n'apprenait pas les gens derrière les tableaux, les œuvres. Et je crois qu'on a fait une belle rencontre parce que vraiment, c'est, d'être artiste peintre ou artiste tout général, toute seule, c'est presque pas possible. Et donc, elle m'apporte... comment commencer avec ce genre de choses? Mais professionnellement, elle m'apporte une structure. C'est comme un cadre, c'est comme un boussole, c'est comme un... ça met en valeur. J'ai besoin d'un cadre, sinon tout est en morceaux, tout n'est pas assez structuré pour ce monde. Ce monde de la peinture est assez structuré. La France, il faut être structuré pour être artiste peintre professionnel, et c'est important. Et elle m'apporte toute cette dimension-là, autant qu'elle est aussi mon muse, et elle m'inspire énormément pour mes propres toiles.
C'est-à-dire qu'elle est à la fois devant et derrière le tableau.
Voilà, précisément. Ouais. Et aussi, elle m'a fourni ses fiches devant moi qui dit que j'ai des expos bientôt.
Alors, on va en parler.
J'aurais pas du tout préparé si c'était simplement moi-même.
Vous allez donc lire les petites fiches qu'a préparées votre épouse et vous allez également me parler de votre site et puis de coordonnées parce qu'on a envie de vous rencontrer. On fait comment?
Alors, j'ai un super bon site, très, 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 très ludique, où on peut voir mes œuvres. Après, on aime ou on n'aime pas.
Elles sont toutes sur le site.
Non, pas du tout. Mais par contre, il y a beaucoup. Et il y a tout mon monde, en fait. Hein. J'ai fait des émissions sur la peinture que ma femme a organisées. Il y a des vidéos, des expos. Par exemple, j'avais une grande expo à Paris récemment. Il y a une très belle vidéo en musique de cette expo qui est une très bonne façon de regarder. À cause du Covid, ça a inspiré une telle démarche qui a rencontré un grand succès. Aussi, il y a un pastel. Je fais beaucoup de pastels sur place. C'est une autre matière que j'aime bien. Donc, le site, c'est gordonsuard.com. Gordon Seward, c'est comme Steward sans le T. gordonsuard.com. Et on peut visiter mon atelier, mais c'est sur rendez-vous.
Alors, on n'a pas dit, mais vous ne vivez plus à Toulouse, mais enfin, non. Vous êtes dans le Lauragais.
Dans le Lauragais, à une demi-heure de Toulouse. Ouais. Mais j'ai l'espace.
Donc, ça peut être une jolie sortie du week-end pour venir admirer vos œuvres.
Oui, mais la peinture, c'est sérieux, c'est pas pour faire du tourisme.
Raison de me reprendre, je me suis peut-être mal exprimé. Vous avez raison, Gordon.
Non, mais vous n'êtes pas le seul. Mais...
Quand on est intéressé et qu'on a envie de venir voir votre travail,
on va sur le site, on va dans contact et on prend rendez-vous. Sinon, j'ai une expo à Toulouse le printemps prochain à la Galerie Bouquière entre le 29 mai et le 18 juin. L'année prochaine, c'est dans la rue Bouquière, métro Carme, qui est une très belle petite galerie où je suis là tout le temps. Et chaque année, depuis longtemps, je prends cet espace chaque année. Et peut-être sur Toulouse, vous avez déjà vu une de mes affiches parce que ça aussi, les affiches sont... c'est important d'exister sur Toulouse parce que la peinture, on n'est pas nombreux de défendre la belle peinture, je trouve, à Toulouse. Et c'est très important dans cette belle ville.
Et à 7 aussi, vous avez exposé, vous le faites chaque année?
Non, j'avais une expo à 7 sur le Grand Canal cette année et l'année prochaine, normalement aussi, entre les 4 et les 24 juillet, à Saint-Tropez également l'année prochaine, au Lavoir, Vassereau, qui est juste centre-ville sur le boulevard Vassereau. Donc, tout près de la place des Lys. Ça, c'est des deux projets cette année. Avec le Covid, c'est toujours un petit peu dans... Et à Paris, j'ai... La grande nouvelle aussi, c'est que j'ai une grande expo dans le Marais, à la Galerie Saint-Gilles, entre le 7 et 14 février. Donc, très bientôt. Très loin, très, très près de la place des Vosges, juste à côté. Ça va être une belle expo avec une quarantaine d'œuvres. Et juste après, il y aura le salon Comparison que je suis invité chaque année. Et ça, cette année, c'est dans le Grand Palais éphémère qui est sur le Champ de Mars, qui est un grand bâtiment parce que le Grand Palais est fermé. Donc, ils ont créé un grand bâtiment éphémère sur le champ de Mars. Et ça, ça c'est très excitant. Et le fait que j'ai gagné cette prix avec la Fondation Taylor, en fait, ils font une grande cérémonie pendant le salon. Et donc, c'est assez excitant de monter pour ça cette année. Donc voilà, ça, c'est mes actualités devant moi à ce moment.
Gordon, dernière question. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée?
Oui, peut-être sur Toulouse et la peinture. Parce que il a un rapport avec Toulouse. Au fil des années, j'ai rencontré énormément de gens qui sont si passionnés de la peinture à Toulouse, mais vraiment passionnés, qui pour moi, c'est eux qui gardent la flamme, parce qu'ils croient toujours dans la belle peinture, même qu'il n'y a pas assez d'expos ici. Je ne veux pas être négatif, parce que dans d'autres villes, il y a encore moins.
Hein. Non, c'est pas un problème. C'est une suggestion.
C'est une suggestion. Mais par contre, oui, et cette passion des Toulousains qui ne font pas de bruit. C'est des gens qui vivent leur vie, qui ne cherchent pas d'être célèbres par leur collection, etc. Mais qui croient dans la peinture, qui croient dans l'importance de la peinture. Et là, par exemple, Henri Matisse est peint à Toulouse. Combien de gens sait qu'il a peint à Toulouse? Mais on ne sait pas. Il y a des tableaux de Toulouse d'Henri Matisse. On ne sait pas. Comme vous dites, il y a Toulouse-Lautrec qui est passé par là. En fait, la femme de Henri Matisse était toulousaine. Et Collioure à côté. C'est une région entre le cubisme, l'expressionnisme, depuis l'art rupestre dans les Pyrénées. C'est une région qui a toujours eu besoin de s'exprimer. Et c'est même bizarre presque que si autant de choses s'est passé dans cette région entre ici et le nord de l'Espagne. C'est presque de la magie. Après, tout le monde est attiré par Paris. Mais cette région est très, très importante. Et la culture, c'est pareil, la musique, etc. Mais que ça dure, c'est grâce par exemple, l'Académie de Languedoc qui met en valeur l'art. Et c'est très important. Et je vous remercie pour m'inviter aujourd'hui de parler de la peinture. Parce que sur la radio, on peut parler cinéma, des choses beaucoup plus médiatiques peut-être. Mais la peinture, le monde entier vient en France à cause de la belle peinture. Si on est étranger, on met un pied sur l'asphalte à Paris avec un sort de frisson de ce qu'on va voir dans les musées. Alors, les gens, ils ont sacrifié leur vie pour ça. J'exagère pas. Et leur raison. Et c'est un truc qui peu de gens en France ressentent assez. Mais c'est ça. C'est ça, la magie, là.
Alors, vous êtes, en ce qui me concerne, le troisième peintre que je reçois, puisque j'ai eu l'occasion de recevoir Jean-Luc Beaufils il y a
quelques... Grand peintre aussi.
Grand peintre toulousain, on est d'accord. Et j'ai reçu l'année dernière Dite Donzoff, hein, que vous connaissez...
Je connais moins, je l'ai croisé son travail dans un salon, je crois.
Voilà, et qui était toulousain jusqu'il y a peu, puisque je sais qu'il a déménagé il y a quelques semaines. Et j'aurai certainement l'occasion de continuer à recevoir des peintres parce que c'est un univers merveilleux et je vous en parlais très bien. Je vous remercie d'avoir
Merci,
accepté
Irène.
Mon invitation.
Merci pour
Gordon.
M'avoir reçu.
À très
pour
vite.
Pour parler de la peinture.
Au revoir.
Au revoir.
dessus. Ainsi va la vie, récit ou roman, ainsi va la mode, printemps, été ou hiver. Oui, c'est la vie, c'est un bon enfant, mais chiche qu'elle te tire comme une biche à bout portant pépère.